cette rencontre avec Christopher Priest. Christopher Priest est curieusement à la fois l'un de mes écrivains de science-fiction préférés depuis toujours et un invité pour la première fois aux Imaginales. L'un ayant d'ailleurs un rapport avec l'autre, c'est qu'en général je crois ne pas avoir trop mauvais goût et que donc reconnaître un écrivain de la qualité de Priest, ça ne demande pas un talent non plus particulier et que du coup d'autres que moi l'ont remarqué avant moi. Et qu'il est donc invité dans tous les festivals qui comptent en France depuis très longtemps. Et que, bon, je trouvais que ce n'était pas très décent de l'arracher au festival qu'il avait accueilli avant même que nous existions. Et j'attendais l'opportunité. Or, j'ai appris par des amis communs que Christopher Priest n'allait pas cette fois-ci à son festival habituel, mais qu'il avait entendu parler d'une ville, Épinal, et d'un festival qui méritait le détour, y compris parce qu'on s'y sentait bien entre amis, et qu'on était bien entre amis, mais qu'en plus, il y avait plein de publics qui devenaient des amis. Donc, voilà, on risquait de vendre des livres et de faire des belles rencontres. Donc voilà, c'est une belle rencontre à laquelle je vous convie, et c'est un bonheur parce que je crois qu'il n'y a pas de plaisir plus important pour une directrice artistique de festival que d'accueillir un écrivain quand on peut inviter librement les auteurs qu'on veut dans une ville qui vous fait confiance, et qu'on peut inviter l'un des écrivains qu'on admire le plus dans ce domaine. Voilà, je voulais le dire parce que c'est vraiment pas tous les jours qu'on a cette chance de retrouver un auteur que, jeune, on a lu sans jamais imaginer que 30 ou 40 ans plus tard, 35, on aurait la possibilité, le plaisir de l'inviter. Donc, une grande bienvenue, Christopher Priest, et encore merci pour tous ces livres que vous avez écrits et qui m'ont donné d'incroyables bonheurs de lecture, qui continue à nous en donner, et au-delà de ma petite personne, j'espère à vous en donner plein. Petit extrait pour commencer. On aurait pu commencer tout simplement par un récit sur lequel je vais revenir après, qui est celui qui l'a fait le plus connaître, et qui reste un classique de la science-fiction. Mais je voulais quand même lire un petit extrait d'abord d'un roman qui est le premier roman que j'ai lu de Christopher Priest. La fontaine pétrifiante. C'est pas le titre anglais, Lionel va rectifier. Car en second lieu, quelques jours seulement après la nouvelle de la mort de mon père, j'appris que j'allais bientôt être licencié. Le pays traversait une période de récession, avec hausse des prix galopantes, chômage, pénurie de capitaux. Fort de la confiance que me donnait mon éducation bourgeoise, je tenais pour établi que mes diplômes me garantiraient tout cela. J'étais chimiste expert dans une fabrique de parfums artificiels qui fournissait une grosse compagnie pharmaceutique, mais une fusion avec un autre groupe eut lieu, ainsi qu'un changement de politique, et ma firme dut fermer mon département. Là encore, je partis du principe que trouver un autre emploi ne serait qu'un détail technique. J'avais des qualifications et de l'expérience, et j'étais en mesure de m'adapter, mais beaucoup d'autres diplômés scientifiques avaient été licenciés en même temps, et il ne restait que peu d'emplois disponibles. Puis je fus sommé de quitter mon appartement. La législation en vigueur, en protégeant largement le locataire aux dépens du propriétaire, avait rompu l'équilibre de l'offre et de la demande. Plutôt que de louer, il devenait plus avantageux d'acheter et de vendre. Et dans mon cas, je louais un appartement au premier étage d'une grande vieille maison à Kilburn. Il y avait des années que je vivais là. La maison fut malgré tout vendue à une compagnie immobilière et je me vis aussitôt prier de vider les lieux. Il y eut des recours en justice dans lesquels je me laissais embarquer, mais les soucis qui étaient déjà les miens m'empêchèrent de réagir avec suffisamment de promptitude et d'efficacité. Il devint bientôt clair que je devrais plier bagage. Dans quelle autre partie de Londres pouvait-on se transporter ? Mon cas était loin d'être exceptionnel et de plus en plus de gens étaient en quête d'un appartement sur un marché qui allait en se réduisant. Les loyers grimpaient à toute allure, et les gens qui possédaient la garantie d'un bail restaient là où ils étaient, ou s'ils déménageaient, le cédaient à des amis. Je me débrouillais comme je pus, je me fis connaître des agences, répondis aux petites annonces, demandais à mes amis de m'alerter au cas ils entendraient parler d'un endroit qui viendrait à se libérer, mais dans l'intervalle de temps que me laissait mon avis de congé, je ne réussis même pas à visiter un seul logement, et encore moins à trouver quelque chose à ma convenance. Quand on lit ce texte, cet extrait, on a l'impression d'être dans un récit réaliste, typiquement un récit réaliste. C'est aussi un extrait qui montre le rapport de Christopher Priest, comme beaucoup d'auteurs anglais, à la crise. du Royaume-Uni, crise qui s'est ouverte tout simplement avec la fin de l'Empire et la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que, première question, Christopher Priest, est-ce que vous n'êtes pas justement à la fois un auteur britannique typique, vous êtes l'auteur d'Après l'Empire, et est-ce que, au travers de ça, c'est un peu la chose que nous connaissons bien en France, la perte du statut de grande puissance du Royaume-Uni que vous nous racontez?
Hello. This is working.
Yeah.
First of all, thank you, Stephanie. After you finished your introduction, I thought I'll go now before I ruin everything by talking. I think I'm post-colonial, because when I was growing up, is this on?
Yeah, it is.
Yeah.
Is that better?
It's better.
Thank you. When I was growing up, which was broadly during the 1950s, Britain had just taken part in a big war, which they claimed to have won, which I'm not so sure about now. And there were all sorts of movements abroad in the former colonies, which were gaining independence and moving away from Britain. And in particular, in Egypt, which had been a British possession for many years, they declared independence and closed the Suez Canal. And Britain made this really foolish attempt to intimidate with military force and was sent packing, good thing too. And that really brought about a crisis of identity in Britain. This left me more or less completely untouched because I was at school and I didn't care about the empire, I was just living my life. But during that period, there were a lot of science fiction novels being written in Britain which reflected that. The works of John Wyndham, for instance, the works of John Christopher, Charles Eric Maine, and a man called J.T. McIntosh were writing novels which reflected the decline of Britain through metaphor. But that really, by the time I became a writer, which was some 20 years later, that instinct had really left me. By then I was much more interested in the Beatles and rock and roll and, you know, girls and stuff like that.
Tout d'abord, pour commencer, merci beaucoup Stéphanie. Après votre introduction, j'allais dire que j'allais simplement partir et éviter de parler parce que j'allais vraiment ruiner totalement l'effet de votre introduction. Je me considérerais plutôt comme un auteur post-colonial. C'est-à-dire à peu près dans les années 50, l'Angleterre sortait d'une grande guerre qu'elle prétendait avoir gagnée, j'en suis plus vraiment très très sûr à l'heure actuelle. Il y avait tout un tas de mouvements à l'étranger, dans les anciennes colonies, des mouvements d'indépendance, et qui en gros prenaient de la distance vis-à-vis du Royaume-Uni, notamment la crise en Égypte. Qui était à l'époque une possession anglaise, où il y a eu la fermeture du canal de Suez et où l'Angleterre a fait une tentative, à mon sens très stupide, d'essayer d'intimider le pouvoir en place par la force militaire et qu'on a envoyé rentrer chez elle. Donc il y a eu à partir de là une creuse d'identité assez forte, mais qui m'a pas vraiment touché parce que je m'en fichais un peu, parce qu'à l'époque j'allais à l'école et que j'étais occupé à vivre ma vie. Mais à cette époque, il y a eu pas mal de romans de science-fiction qui ont traité de ce thème-là par le biais de la métaphore en science-fiction. On peut citer par exemple John Christopher, John Wyndham, J.T. McIntosh, etc. Mais bon, 20 ans plus tard, quand moi je suis devenu écrivain, je m'intéressais surtout au rock'n'roll, aux filles, aux Beatles et à ces trucs-là.
J'ai donc commencé mes lectures par un texte d'une grande modernité, et ensuite j'ai découvert des textes plus anciens, donc des classiques. Je crois qu'on est beaucoup à connaître ce texte. J'avais atteint l'âge de 1000 kilomètres. De l'autre côté de la porte, les membres de la guilde se rassemblaient pour la cérémonie qui ferait de moi un apprenti. Moment d'impatience et d'appréhension, en quelques minutes, allait se concentrer tout ce qui avait été ma vie jusqu'alors. Mon père était membre d'une guilde. Je n'avais jamais connu sa vie que d'une certaine distance. Elle me semblait passionnante, chargée de sens, de solennité, de responsabilité. Il ne me parlait jamais de son existence ni de son travail, mais son uniforme, son allure lointaine et ses fréquentes absences de la ville laissaient entendre qu'il se consacrait à des activités de la plus haute importance. Dans quelques minutes, la perspective d'une vie semblable s'ouvrirait devant moi. C'était un honneur et une prise de responsabilité telle qu'aucun garçon élevé entre les murs trop étroits de la crèche ne pouvait échapper à l'émotion qu'éveillait cette étape capitale. La crèche même occupait un petit bâtiment, exactement au sud de la cité. Elle était presque entièrement entourée de murs, un terrier complexe de couloirs, de chambres et de salles, impossible d'accéder au reste de la ville sinon par une unique porte, fermée en temps normal. Nous ne pouvions faire d'exercice que dans le petit gymnase et dans la minuscule cour à ciel ouvert, entourée de hautes murailles sur les quatre côtés. Comme les autres enfants, on m'avait confié au bon soin des administrateurs de la crèche peu après ma naissance, et je ne connaissais pas d'autre monde. Je n'avais nul souvenir de ma mère qui avait quitté la ville peu après m'avoir donné le jour. Ce fut une expérience certes monotone, mais nullement malheureuse. Je m'étais fait quelques bons amis et l'un d'eux, un jeune garçon de quelques kilomètres plus âgé que moi, German Jazz, était devenu apprenti membre de la guilde peu de temps avant moi. J'étais impatient de revoir Jazz. Je ne l'avais rencontré qu'une fois depuis qu'il avait atteint l'âge de la majorité. Quand il était revenu pour une courte visite à la crèche, et déjà il singeait l'attitude un peu affairée des membres. Je n'avais rien appris de lui. Maintenant que j'allais à mon tour devenir apprenti, il me semblait qu'il aurait beaucoup à me dire. L'administrateur revint dans l'antichambre où je me trouvais. « Ils sont prêts, me dit-il. Vous rappelez-vous bien ce que vous avez à faire ?»« Oui. Alors, bonne chance. » Je m'aperçus que je tremblais et que ma main était moite. L'administrateur qui m'avait amené de la crèche le matin même me sourit d'un air encourageant. Il croyait comprendre les affres par lesquelles je passais. En réalité, il n'en devinait que la moitié. D'autres cérémonies m'attendaient après celle des guildes. Mon père m'avait informé de ses arrangements pour mon mariage. J'avais cueilli la nouvelle avec calme, car je savais que les membres des guildes devaient se marier tôt. De plus, je connaissais déjà la jeune fille choisie. Elle s'appelait Victoria Leroux et nous avions grandi ensemble à la crèche. Je ne l'avais guère fréquentée, il n'y avait pas beaucoup de filles dans la crèche et elles avaient tendance à rester entre elles, formant un petit groupe hermétiquement clos. Mais nous n'étions pas tout à fait des étrangers l'un pour l'autre. Malgré cela, le mariage restait pour moi une perspective nouvelle et je n'avais guère eu le temps de m'y préparer. L'administrateur consulta la pendule. « Eh bien, Edward, c'est l'heure. » Voilà, la phrase, je crois, c'est une... Il y a des phrases d'ouverture, parfois, assez souvent, dans les romans de science-fiction qui nous marquent. Mais je crois que c'est certainement, dans mon histoire de lectrice de 35 ou 40 ans de textes de science-fiction, l'une des plus extraordinaires phrases de début d'un roman de science-fiction. Et je voudrais demander tout d'abord à Christopher Priest comment il a eu l'idée d'une telle phrase d'attaque et d'une telle société où on compte en kilomètres.
It was true. I'd like to say, Stephanie, you make my book sound so nice in French.
Je voudrais vous dire d'abord, Stéphanie, que vous faites le. À vous entendre, les livres sonnent tellement bien en français.
The problem with Le Monde Inverti for me is I wrote it at least 40 years ago. I was working on it for about 8 years before then. I was really young, and I really didn't know what I was doing as a writer. So I do feel that sentences like the one Stephanie's talking about are really just luck. When I said at the beginning, that's what it really was. I just felt that that was how the book should start. It came from an it wasn't calculated in any way.
Le problème avec Le Monde Inverti, c'est que je l'ai écrit au moins il y a 40 ans, et avant ça, je travaillais dessus pendant 8 ans et j'étais jeune à l'époque, je savais pas très bien encore, je comprenais pas encore très bien ce que je faisais en tant qu'écrivain. Et je pense que les phrases comme celles que vous avez citées en ouverture sont simplement de la chance. J'avais juste l'impression que c'était la façon dont le livre devait commencer. C'est juste plus intuitif, c'était pas calculé du tout.
On va maintenant passer à un roman beaucoup plus récent. On n'a pas, dans cette rencontre, de choix chronologique. Tout simplement parce que chez Price, ça n'a pas beaucoup de sens. Même s'il y a des périodes dans sa vie d'écrivain, des chronologies, on pourrait parler de Futur intérieur, on pourrait parler de son hommage à H.G. Wells, qui est un de ses premiers livres, livre plutôt classique, plutôt exercice de style. On pourrait parler d'autres livres, il y en a beaucoup, y compris ceux qui ont été adaptés au cinéma, qu'on n'aura pas le temps d'évoquer. Mais avoir un temps circulaire dans l'approche des livres de Priest ne dérange nullement, parce que, et j'aimerais qu'il me dise s'il est d'accord, s'il ne l'est pas, il le dira avec sa franchise habituelle, j'ai l'impression que le temps n'est pas quelque chose de statique, que le temps n'est pas quelque chose qui coule de façon évidente, que le temps est mobile dans les écrits de Priest, que le temps est flou, que le temps est indécis et que le monde lui-même l'est. Est-ce que, Christopher Priest, votre œuvre, ce n'est pas justement une rupture avec la linéarité du temps, en tout cas celle qu'on vit sur Terre et dans nos petites vies, et puis aussi une rupture avec l'espace tel que nous le connaissons?
I've now written 13 novels, 13. They're all different, and they all represent different parts of my life, different periods. But for me, I feel as if I've been writing one long novel, most of which is invisible, and every now and then it sort of pops up to the surface and gets published, a bit of it, and then I go back down under the surface again. So that for me, they're all linked. For instance, the affirmation, La Fontaine Pétrifiante, which Stephanie began with. For me, I don't claim it as my best novel, but I do see it myself as a kind of key novel. It's a novel where everything I wrote before that fed into it, and it was a kind of summary of what I'd written. Everything I've written since has referred back to that book. It's a very important book to me. It's sort of central. It's a kind of a rite of passage. It's in a sense from being a beginning writer to becoming a sort of mature or adult writer. The images of the affirmation still haunt me. I mean, it's a very important book personally. It describes, it's not an autobiographical novel, but it has more of autobiographical feelings than anything else I've written.
Alors j'ai maintenant écrit 13 romans, ils sont tous différents et ils représentent tous des périodes différentes de ma vie. Mon sentiment quand je regarde donc ma vie, ma carrière, j'ai l'impression en fait, même si j'ai écrit 13 romans très différents, d'avoir finalement écrit un seul et même très très long roman dont la plupart est invisible de temps en temps. Dans la majeure partie est invisible. De temps en temps, il y a une partie qui affleure à la surface, cette partie est publiée. Mais tout cela, tout le reste est invisible. Il y a une espèce de lien et un livre dont vous avez parlé juste avant, sur lequel vous avez commencé, La Fontaine Pétrifiante, et pour moi un livre très important. Je ne prétendrai pas que c'est mon meilleur livre, mais en tout cas pour moi ce livre est une clé. Tout ce que j'ai écrit avant est venu alimenter ce livre-là. Est venu quelque part en sorte un peu résumer ce que j'avais appris et compris et ce que j'avais écrit avant. Et tout ce que j'écris ensuite y fait en quelque sorte référence. Donc c'est un petit peu un livre central. C'est pour moi un livre, ce livre est une forme de passage qui a marqué ma transition du rôle d'auteur débutant à celui d'auteur adulte au sens d'auteur mûr. Il y a des images de La Fontaine Pétrifiante qui me hantent toujours. Alors il n'est pas autobiographique, mais c'est peut-être celui qui pour moi me fait l'effet le plus autobiographique de tous.
On va entrer dans un tout autre livre. Le titre français en est La Séparation, et la couverture brisée pour qu'on voit bien qu'il s'agit quand même d'un photomontage. C'est Churchill serrant la main à Rudolf Hess. Cette scène, évidemment, dans l'histoire réelle, n'a jamais eu lieu. Tôt le matin du 10 mai 1941, Rudolf Hess, l'adjoint de Hitler, avait décollé dans un bimoteur Messerschmitt 110 de l'aérodrome de l'usine Messerschmitt Augsbourg, en Bavière. Hess emportait un traité de paix entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne qu'il comptait soumettre à Winston Churchill en personne avec l'aval de Hitler. Après une escale en Hollande pour refaire le plein, son avion avait été intercepté par les chasseurs allemands qui avaient tenté de le faire atterrir puis de l'abattre à la mitrailleuse. S leur avait échappé en filant à travers la mer du Nord, malgré la poursuite dont il avait brièvement fait les frais. D'autres appareils de la Luftwaffe, basés au Danemark, pays occupé, avaient également décollé pour l'arrêter. Leur pilote avait regagné la base en affirmant l'avoir éliminé en mer, mais malgré le réalisme et la cohérence de leur description, il n'apportait aucune preuve concluante. S avait réussi à remplir sa mission de paix. Plus tard, il y avait eu le capitaine de l'RAF, Sawyer, à la fois objecteur de conscience officielle et pilote de bombardier, d'après Churchill. Le mémorandum adressé au personnel du ministère lui demandait de découvrir comment une telle contradiction était possible. Aucune réponse officielle n'y avait été enregistrée. Près de 60 ans plus tard, Stuart Grattan, dont la famille possédait une longue tradition de pacifisme, flairait là une histoire. De quoi s'agissait-il? Et plus particulièrement, qu'avait bien pu faire Sawyer le 10 mai 1941? C'est une histoire. Quelle imagination vous avez, Christopher Priest, à nous raconter cette histoire de l'un des plus grands dignitaires du Troisième Reich s'envolant tout seul à bord d'un avion de la Luftwaffe et tentant d'atterrir en Grande-Bretagne pour porter un contrat de paix. Or, il semble bien que dans notre histoire réelle, cette histoire délirante se soit produite. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer, évidemment, Christopher Priest?
Yes, that's real. I mean, a plane carrying someone alleged to be Rudolf Hess certainly flew to Britain and landed in Scotland on 10th of May 1941. But whether it was the real Hess or not is still a matter of some controversy. There's a fairly respectable theory that the guy who landed was an imposter, an actor, a double, somebody who was paid to take Hess's part. When I was writing Separation, I didn't necessarily believe that theory, but I found it very exciting, very, very interesting, because at the time I was researching all the doubles that political leaders use, and in particular the most famous one is Winston Churchill, whose speeches, which I'm sure are known around the world, they're famous speeches which he made in the early part of the war, were in fact delivered by an actor. And this is not a theory, this is a fact. The actor's name was Norman Shelley. And he died only recently. And after the war, Churchill was annoyed that his famous speeches had been spoken by somebody else, so he re-recorded them. But they weren't very good, and they weren't as good as the originals, so that very few people have heard them. And where was I on Hess? Later on, I've thought more about Hess. I think it probably was the original man. I can't believe that this double theory. But in reality, Hess, or his imposter, arrived in Britain. Churchill refused to see him. He ordered that he spend a night in the Tower of London, which he did, which was mainly done to impress the Americans, who at the time Churchill was trying to get to join the war. And then after that, Hess was kept in a number of private houses away from the world. He was never met by any responsible government figure. At the end of the war, he was flown to Nuremberg, where he was tried as a war criminal. He was found guilty of 2 out of 4 charges, and he was sentenced not to death, but to life imprisonment, something which the Soviet Union insisted must be taken literally, that he would die in prison. And Rudolf Hess hung on and hung on. He died only comparatively recently in 1989. So it's an interesting story. By the time he died, he was the only prisoner in the prison in Berlin. Interestingly enough, World War II began through Hitler demanding that the reparations inflicted on Germany after the First War were too expensive, too onerous. And he actually had a point, because if Germany had paid off those reparations, they would still have been paying them off in 1989. In fact, they probably wouldn't have paid them off until about 20 years ago. It was a huge sum of money to pay. So I think I don't agree with Hitler about many things, but that was one of them. But I think Hess really paid the price for the madness of the Nazi regime. He was the only Nazi leader who fell into the West, into the Allied hands during the course of the war. And he was treated quite well, but he was treated as a criminal.
Alors, oui, effectivement, cette histoire est vraie. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui s'est envolé d'Allemagne, on pense que c'est S, on dit que c'est S, pour aller en Angleterre, et notamment il a atterri en Écosse le 10 mai 41, pour aller négocier une paix séparée avec l'Angleterre. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a encore beaucoup de controverses autour de la personne qui était dans cet avion. Est-ce que c'était un imposteur, un double? On pense que ce serait peut-être un acteur qu'on aurait payé pour le rôle. Quand j'écrivais La Séparation, ce n'est pas forcément une théorie à laquelle je croyais, mais en tout cas, je la trouvais intéressante. À l'époque, je faisais des recherches sur les doubles que les leaders politiques emploient. Et il y a un cas, par exemple, célèbre, qui est celui de Churchill, dont les discours qu'on connaît en général, qui sont connus à travers le monde, en fait, ça, ce n'est pas une théorie, c'est un vrai fait historique. C'est un acteur, en fait, qui lisait ses discours. Un homme qui s'appelait Norman Shelley, qui est mort assez récemment. Après la guerre, Churchill était un peu agacé que ces grands discours, en fait, on en garde la trace de la bouche d'un acteur, donc il a voulu les réenregistrer, mais en fait c'était pas terrible, et donc en fait on les a pas gardés, il y a très peu de gens qui ont entendu, on a gardé ceux qui avaient été lus par l'acteur. Alors, d'abord, j'ai réfléchi d'abord à cette théorie, j'ai un peu de mal à croire à cette théorie du double, mais bon, est-ce qu'il est vrai ou un imposteur? En tout cas, quand cette personne a atterri là-bas, Churchill a refusé de le rencontrer, il l'a fait emprisonner à la Tour de Londres, parce qu'à la base, il espérait pouvoir impressionner les Américains dont qu'il essayait d'impliquer dans la guerre. Ensuite, S a circulé de maison privée en maison privée, dans le secret. Aucun responsable du gouvernement anglais ne l'a jamais rencontré. Et ensuite, à la fin de la guerre, il a comparu devant le tribunal de Nuremberg, où il a été reconnu coupable de 2 des 4 chefs d'accusation. Et il a été condamné à la prison à vie, une sentence que l'Union soviétique voulait voir appliquée de façon très littérale, puisqu'ils insistaient sur le fait que S meure en prison. Et S s'est accroché jusqu'en 1989 où il est mort. Ce qui est intéressant, c'est qu'il était donc emprisonné à Berlin, où il était le seul prisonnier dans le complexe où il se trouvait. Si l'on remonte aux origines de la cause de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, elle a commencé quand Hitler a refusé de payer les réparations exigées de l'Allemagne à l'issue de la Première Guerre mondiale, parce que c'était beaucoup trop cher. Et on peut quand même reconnaître qu'il n'avait pas tort, puisqu'en fait, si l'Allemagne avait dû continuer à payer ses réparations, l'Allemagne n'aurait pas fini de les payer en 1989. En fait, ça aurait probablement encore duré environ 20 ans de plus. C'était absolument extrêmement cher. Alors évidemment, je ne suis pas d'accord avec Hitler sur beaucoup de choses, mais au moins sur ce point-là, on peut peut-être se poser la question. Et c'est S, en tout cas, qui a payé le prix de la folie du régime nazi. C'était le seul chef de guerre nazi qui a été emprisonné par les Alliés pendant la guerre. Il a été traité raisonnablement bien, mais il a quand même, en tout cas, été traité comme un criminel.
Et donc, à partir de ce point de départ, romanesque, rocambolesque et vrai, vous avez imaginé une sorte de divergence, un mystère, et vous avez deux frères qui vont visiter l'Allemagne à une certaine époque, on repart en arrière, et on essaie de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et au fur et à mesure, il y a des petites différences dans l'histoire. Un extrait. Jusque-là, il suivait le schéma habituel après avoir terminé un livre. En général, il commençait aussitôt à travailler sur un nouveau projet, dressant une sorte de rempart contre la possibilité que le manuscrit posât un problème quelconque. En revenant de Hull à travers les Pennines, il s'efforçait de déterminer à quoi s'attaquer en premier lieu. Il avait deux idées qui promettaient toutes les deux des difficultés pour des raisons différentes. L'une impliquerait un investissement important en temps et en recherche. Il comptait écrire une histoire sociale des États-Unis depuis 1960-61, époque où Richard, même Nixon, était devenu président jusqu'à la fin du mandat d'Adlai Stevenson. Nixon, élu sur la foi de déclarations du genre « Rendez-nous nos petits gars ». Bon, en fait, quand on entend ça, et qu'on connaît un peu l'histoire américaine, on sait qu'Adlai Stevenson a perdu l'élection, on sait que Nixon n'a pas été élu à cette époque-là, mais plus tard, et on sait que Nixon a plutôt été à quelqu'un qui organisait la guerre du Vietnam que de ramener les petits gars au pays. Et d'autant plus que plus loin, notre auteur parle de la présence militaire américaine en Sibérie. Donc tout au long du livre, on se rend compte qu'il y a des petits décalages de l'histoire. Tout le monde ne repérera pas tout. La Sibérie, oui, ça c'est pour le lecteur distrait qui connaît mal l'histoire. Mais Adlai Stevenson, quand on est un Français, ou la date d'élection de Nixon, on n'est pas nécessairement... Donc voilà, il y a toute une série de petites choses, de petites touches qu'on trouve dans le roman et qui nous montrent, même au lecteur peu connaisseur de l'histoire, la présence en Sibérie, ça je crois que tout le monde le sait, que les Américains n'y ont jamais été pour l'occuper, que donc ce monde n'est pas tout à fait notre monde. Et cette fluctuation est au centre de ce roman. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'Uchronie, Christopher Priest ?
All right. In literal terms, in 1941, when the novel is set, there was a brief moment, about a week in length, in which Britain could conceivably have made peace with Germany. If they had done so, the course of the war would have been extremely different. First of all, France would have been liberated, and the other countries which Germany had occupied. America probably wouldn't have come into the European War. It would have concentrated on Japan. Russia would still be invaded by Germany, and Germany would almost certainly be beaten again, as it was. But that would leave a very different post-war world, which would, in effect, have restored Britain's strength in the world. For instance, the oil fields of the Middle East would have remained under British control, which they are not in the present day. They're very much American property managed by the people who live there. It would have meant that Auschwitz probably wouldn't have happened. That it would have meant that many of the crimes which were committed by the Nazi regime would have been avoided. It would probably have meant the end of Hitler. Hitler would almost certainly have been overthrown by his enemies within the Reich. It was very fascinating stuff. But I do think that had all that happened here today in Epinal in 2014, life would be much the same. I don't think that wars are actually that important in what I call the moral side of history, that the flow of history is really controlled by people and by changing influences. For instance, think about how the internet would be if it was under a world where the Nazis had won. That would be very different. But then I always say in a sort of joking way that if Germany had won the war, we'd all be driving Volkswagens and BMWs and you know, that would be awful, wouldn't it? Sorry, I'm starting to burble. I'll leave my colleague here to sum it up more admirably.
Je pense qu'en termes littéraires, en 1941, il y a eu un très bref moment qui a duré peut-être une semaine, où il y a une possibilité très réelle que l'Angleterre fasse la paix avec l'Allemagne. Et si ça avait été le cas, la guerre aurait pris un tour extrêmement différent. Selon toute logique, la France aurait été libérée, tous les pays que l'Allemagne avait envahis auraient probablement été libérés. Les États-Unis ne seraient probablement pas entrés dans la guerre au niveau européen, ils se seraient concentrés sur le Japon. La Russie aurait probablement, l'Union soviétique aurait probablement été quand même envahie par l'Allemagne, et selon toute logique, l'Allemagne aurait perdu de la même manière. Mais donc on aurait un monde post-guerre probablement très différent. Cela aurait certainement restauré l'Angleterre dans sa force et les champs pétrolifères du Moyen-Orient seraient certainement encore sous son contrôle, ce qui n'est plus le cas vu qu'on peut quand même plus ou moins dire que c'est maintenant une propriété américaine gérée par les gens qui vivent là-bas. Auschwitz n'aurait probablement pas existé. La plupart des crimes, des crimes de guerre très graves du régime nazi auraient probablement été évités. Et on peut raisonnablement supposer que Hitler aurait été renversé par ses ennemis au sein du Reich. C'est fascinant de considérer et de réfléchir tout ce qui aurait pu se produire si c'était arrivé. Mais je reste quand même convaincu que la vie ici à Épinal en 2014 serait globalement plus ou moins la même. Je pense finalement pas tellement que les guerres sont si importantes que ça dans ce que j'appelle l'aspect moral de l'histoire. Je pense que le flot de l'histoire est contrôlé par les gens à un niveau moral et individuel. On peut se demander à quoi ressemblerait Internet si le monde était sous domination nazie, si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre. Ce serait probablement très différent. Je plaisante souvent en disant que, ma foi, si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre, aujourd'hui, nous conduirions tous des Volkswagen et des BMW, et ce serait un monde absolument atroce, n'est-ce pas ?
On va partir ailleurs. On va partir dans un endroit absolument surprenant que la fontaine pétrifiante avait déjà commencé à nous montrer. On va partir dans l'archipel du rêve. L'inconnu me faisait penser à Slenge que je voulais voir, ai-je décidé. Elle s'était occupée de moi un moment à l'hôpital. Voilà pourquoi elle m'avait parlé de Winnow, l'île d'où elle était originaire. Pendant que je gisais dans mon petit lit, que des images stupéfiantes m'emplissaient l'esprit, Slenge avait passé ses nuits auprès de moi à me raconter sa vie. Elle m'avait décrit la mer, les récifs, les lagons peu profonds, les hautes montagnes couvertes d'une forêt dense, les petites villes blotties dans les plaines fertiles entre montagnes et lagons. Durant les crises de synesthésie fiévreuse qui me torturaient, sa simple présence m'avait mis du baume à la douleur. Elle parlait musc, son rire avait la texture de l'eau de source, je l'aimais en verbillon profond. Slenge racontait sans fin, me sachant incapable de répondre, imaginant peut-être incapable d'entendre, alors que je ne perdais rien de ce qu'elle disait. Sa vie sur Winnow, la mort précoce de sa mère, le déménagement sur une autre île, son père acculé à chercher ailleurs du travail, ses sœurs à elle confiées à la garde d'un voisin, la maison étrangère déjà occupée par d'autres enfants, le fardeau permanent de la pauvreté. Puis le passage des troupes finlandaises, la pauvreté plus grande encore, la compréhension non sans répugnance qu'une jeune fille disposait toujours d'un moyen facile de gagner de l'argent. Elles étaient toutes devenues putains, racontait Slenge, le verre brisé de son rire dégringolant autour de moi. La moindre fille de sa connaissance. Je me recroquevillais, les yeux fermés de toutes mes forces, en attendant qu'elle me raconte le départ des troupes. Les soldats avaient fini par quitter Winnow pour continuer leur route vers le sud, au-delà de l'archipel. La plupart des putains avaient cessé d'en être. Slenge avait grandi, expliquait-elle, sa bouche versant du lait. Elle aspirait à une vie meilleure. Aussi avait-elle déménagé sur une autre île pour faire des études d'infirmière. Elle était partie pour le sud et elle avait fini par arriver là, à mon chevet, où elle parlait toute la nuit. Jusqu'à ce qu'une nuit, elle ne soit plus là, remplacée par une collègue. J'ai découvert plus tard qu'il y avait eu des problèmes sur Winnow. Slenge avait été obligé de rentrer à l'improviste. J'ai de nouveau examiné la carte à la recherche de Winnow. Alors seulement, j'ai remarqué que la patrie de Slenge se trouvait dans la zone de l'archipel, encore sous occupation militaire. Lui aussi, à trois îles de là. Comment était-ce possible ? Puisque tout un chacun savait l'archipel du rêve démilitarisé. La carte datait de 2 ans. Avec les hasards sans cesse changeant de la guerre, les choses évoluaient vite. Il fallait se rendre là-bas pour savoir. C'est un monde étonnant, l'archipel du rêve. C'est un monde évidemment fictif qui ressemble quand même pas mal au monde européen moderne. C'est un monde où chaque île a sa personnalité, sa tonalité, son climat, son économie, ce monde fictif que vous avez imaginé, où la lenteur des dialogues, des personnages, crée une sorte de transe hypnotique chez le lecteur, ça vous est venu d'où, Christopher Priest ?
I'm still working on the Dream Archipelago. I don't really know a lot about it. I'm finding out about it as I write. It is exactly as Stephanie says, a sort of metaphor for Europe and the Western world as we know it. But of course it's not, you mustn't interpret it. Is this working? Yeah. You mustn't try to interpret the stories on that basis because I'm apolitical and The stories are essentially about art and about love, sex, human beings. And extremely relieved that Stephanie didn't read out the next bit of the story. Emptied the hall. I initially saw the Dream Archipelago as a sort of tapestry, a large area I could draw on, paint, concentrate on small pieces without thinking about the whole. And as I've gone on with it, it's become increasingly interesting to me in that way, that the it's very fluid, it's never the same place twice. There's one of the qualities of the Dream Archipelago is you can sail from one island to the next, but when you return, the island you left has moved away. This hasn't become clear yet in the stories, but this is the sort of thing I'm moving towards.
Je suis toujours en train de travailler sur l'archipel du rêve. Et en fait, je ne sais pas tant de choses que ça à son sujet. Je continue à les découvrir au fur et à mesure. Comme vous l'avez dit, Stéphanie, c'est un petit peu effectivement une métaphore de l'Europe, du monde occidental. Mais il ne faut pas l'interpréter sur cette base, parce que je suis apolitique. Les histoires parlent, les nouvelles parlent, les récits parlent principalement d'art, d'amour, de sexe, finalement d'humanité. Et je suis d'ailleurs assez soulagé que vous n'ayez pas lu la suite, qui est un petit peu plus osée. Quand j'ai commencé à créer l'archipel du rêve, je l'ai un peu vu comme une tapisserie, un grand canevas sur lequel je peux dessiner, peindre par petites touches, sans penser au reste. Et il est devenu de plus en plus intéressant pour moi au fil que le temps a passé. Il reste toujours fluide. Une des choses qui est intéressante, par exemple, c'est que vous pouvez partir d'une île en bateau et naviguer vers une autre, puis revenir. Et en fait, si vous allez revenir, ce ne sera pas l'île dont vous êtes parti, parce qu'elle sera allée ailleurs. Ce n'est pas encore très très clair dans les récits pour l'instant, mais c'est la direction vers laquelle je tends, cette fluidité.
My novel, Les Insulaires, which is here, is actually a sort of tourist guide to the Dream Archipelago. It's in alphabetical order because it's a reference work, so all the islands appear in alphabetical order, and it tells you exactly where to go if you want to get a good meal or a good beach, or if you want to score drugs, or you want to use nightclubs, or you want to take your children. All the islands are set out very carefully for you, because it's quite subversive in that as the book goes on, you realize certain characters are reappearing, and that, like the islands themselves, they're not fixed. And as you find out more about the characters, including the chap who appears to have written the book, are not at all what they seem. So it's not a book, it's actually a book about islanders, not islands. That's hence the title.
Et dans le même cadre, mon roman Les Insulaires, qui vient de sortir, en fait, est une sorte de guide touristique de l'archipel du rêve. C'est présenté un peu comme sous une forme d'un ouvrage de référence par ordre alphabétique. Et ça vous indique où aller si vous voulez avoir un bon repas, vous trouver les meilleures plages, vous procurer les meilleures drogues, les meilleures boîtes de nuit, où aller avec vos enfants, etc. Tout ça est très bien établi pour votre plaisir et pour vous guider. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que tout ça est assez subversif, parce qu'on voit que certains personnages réapparaissent et qu'eux aussi, ils ne sont pas fixes, ils sont un peu fluides. À mesure qu'on avance, certains chapitres ne sont pas ce qu'ils semblent être, et que certains personnages non plus. Et c'est pour ça que le livre s'appelle Les Insulaires et pas Les Îles, c'est parce qu'il traite des gens avant de traiter du cadre.
Christopher Priest a anticipé, mais j'avais déjà le livre à la main, parce qu'évidemment, je l'ai lu très récemment. Et j'ai vraiment trouvé, alors après un petit moment, les 30 premières pages, j'étais légèrement désarçonné. Je suis rentré dedans, là je parlais tout à l'heure de transhypnotique. C'est vraiment l'impression que ça fait. C'est à la fois, en effet, un guide de voyage, mais aussi un univers dans lequel, une fois qu'on est rentré, on le découvre par petites touches comme un guide. On y trouve des personnages, en effet. On y trouve des descriptions, on y trouve des histoires. Et à la fin, ça fait un roman. Je vous lis juste quelques lignes de la quatrième de couvre, puis un petit extrait. L'archipel du rêve. Des centaines d'îles éparpillées entre le continent septentrional et submayeur. Des milliers. Des centaines de milliers. À cause du phénomène des gradients temporels, personne ne sait. Aucune carte ne peut être tracée. Sur les Aubrac sévit un insecte mortel, redouté. Sur Colago, le secret d'immortalité a été découvert, mais le traitement n'est pas à la portée de toutes les bourses. Sur Trem, interdite aux civils, les explosions retentissent chaque nuit. Même dans la zone de neutralité que représente l'archipel, certains conflits demeurent. Vous avez compris qu'il y a une guerre entre le nord et le sud, et que l'archipel est entre deux feux. Deux très courts extraits. Emret, toute liberté. Petite île peu peuplée de nos jours encore, qui a subi au siècle dernier des feux de brousse dévastateurs. Après les incendies, les principaux villages et la demeure essentielle ont été reconstruits, suivant les standards édictés par le pacte. Emret ne comporte que peu de routes, mais la randonnée pédestre y est fort agréable. Un certain nombre de sentiers conseillés figurent sur les cartes en vente à Emretville. L'itinéraire le plus fréquenté mène du port au parc du Caire. Passer l'endroit où la plupart des gens descendent de bateau, une étroite piste de terre bien indiquée mène à travers champs et jeunes rochers au rocher de Chude, le point le plus élevé de l'île, célèbre pour ses grottes calcaires, ouvertes au public. Des visites guidées permettent aux amateurs de découvrir des formations rocheuses et des stalactites spectaculaires. Quant aux spéologues chevronnés, ils peuvent également accéder au système de marmites torrentielles. Je passerai sur le parc fermé au public pour enchaîner sur un autre passage et vous allez voir la rupture de ton. Mika, Trem, porteuse de messages passant rapide, le drone. Les drones revenaient au crépuscule. Lorsqu'elle en avait terminé avec son travail à l'observatoire, Lorna Merlin éteignait son terminal, puis descendait prudemment les marches inégales, taillées à flanc de falaise jusqu'à la plage. De là, elle assistait au retour des aéronefs volant au ras des flots. Par mer calme, les LED de couleur vive logés dans le ventre des appareils se reflétaient sur les vagues. Ils arrivaient parfois à un, voire à quelques minutes d'intervalle, mais vu leur nombre, c'était souvent un véritable nuage scintillant qui s'approchait de l'île. En passant au-dessus de la plage, ils repéraient au radar les falaises rocheuses qui le ceinturaient et y adaptaient leur attitude à l'unisson. Dans leur sillage s'élevait le surmont essoufflé de leurs ailettes silencieuses, impression de distance secrète, quoique parcourue d'explosions souterraines, sournoises, de vents inexprimés. Par précaution, au cas où le personnel de sécurité l'aurait croisé et aurait contesté son droit de se trouver sur la plage à une heure pareille, Lorna emportait toujours son tabulateur, mais elle ne l'avait pas plus allumé ce soir-là que les autres. Il reposait contre sa hanche, animé d'une légère vibration, car réagissant à la pulsation localisante de chacun des drones qui s'identifiaient séparément. Lorsqu'elle le mettait en veille de cette façon, pendu à son épaule, il détectait les petits robots de manière numérique. Il en reconnaissait et en décomptait tant, il en signalait tant. Elle s'attaquerait le lendemain matin à l'évaluation des résultats quantifiés, plus complexes, quand ils auraient été téléchargés au QG, puis envoyés aux ordinateurs de l'ICM. Dans la salle des cartes, on verrait de quelle couverture avait bénéficié l'océan, puis on s'attellerait à la tâche de reconstituer le trajet des drones jusqu'à leur point de lancement, en se servant des retours satellites pour analyser leur trajectoire. Après quoi, les cartographes, y compris Lorna, transféraient laborieusement les images correspondantes dans la base de données maîtresse. Malheureusement, ils prenaient toujours davantage de retard, même quand leurs effectifs étaient au complet. Ils cherchaient encore à démêler les rapports envoyés plus de 2 ans auparavant. Sans doute faudrait-il attendre 2 ans de plus pour que les données cartographiques de cette nuit soient évoluées, le retard augmenté peu à peu. Voilà. On est dans cet univers mystérieux où rien, y compris les tâches les plus élémentaires, ne se déroule comme dans notre univers tout à fait normal. Et c'est ce que j'appelais cette vision, ce fonctionnement complètement hypnotique du roman. C'est certainement un des livres les plus fascinants et les plus étonnants de Christopher Priest, ce qui n'est pas peu dire. Et c'est un très beau livre. Et une fois que j'ai dit ça, je voudrais poser une question à Christopher. Pourquoi revenez-vous régulièrement, depuis que vous êtes écrivain quasiment, à cet archipel du rêve? En quoi est-ce emblématique de votre œuvre?
I'm afraid it's what I said before. I don't really know. I'm still working on it. And I'm finding out. And I have more books I need to write to find this. It comes up in several novels. It's there's a novel of mine which I don't think Stephanie's going to talk about today, or maybe you are, La Femme sans Histoire, which is actually a sort of little footnote to the Dream Archipelago. Oh dear, I'm sorry. It's a sort of footnote to the Dream Archipelago. One of the characters turns out to come from the Dream Archipelago, and at that crossover, the novel which nobody has read in France, which is called The Adjacent, which came out this year in England, takes that project to a new level, where this world and the Dream Archipelago become psychically interchangeable, that one is the other, and one can cross over from one to the other. As I say, this is why it's a very changeable thing. It's something I'm developing. It's a sort of project I'm working on.
Malheureusement, je risque de vous faire la même réponse que tout à l'heure, c'est que je ne sais pas. Je travaille toujours sur cet archipel et je suis en train de découvrir petit à petit. À propos des différents romans, des différents récits relatifs à l'archipel, un livre dont je ne sais pas si vous allez parler, qui est La femme sans histoire, en fait, est également une petite note de bas de page relative à l'archipel du rêve, où on découvre qu'un des personnages vient en fait de l'archipel, et donc il y a une espèce de crossover, de recoupement entre notre monde et l'archipel. Un roman qui vient de sortir en Angleterre, qui s'appelle The Adjacent, Les Adjacents, est également relatif à l'archipel. L'idée, c'est que notre monde et l'archipel, en fait, sont régulièrement échangent leur place et sont plus ou moins interchangeables. Et on se rend compte qu'il y a une espèce justement d'interpénétration entre les deux. Donc du coup, l'archipel est vraiment un endroit extrêmement changeant et changeable. Et donc c'est un peu le projet et je continue à en parler et à travailler là-dessus.
J'aurais voulu parler de ce roman que vous venez d'évoquer. Mais le temps nous est compté et déjà le débat suivant va arriver. J'aurais voulu aborder aussi un thème dans votre œuvre qui le traverse, qui est le rapport, je ne dirais pas de l'auteur, mais des personnages avec les femmes. Les femmes comptent beaucoup dans vos romans, pour les personnages de vos romans, et les femmes sont parfois le personnage central de vos romans et de vos nouvelles. Et dans l'un de ces textes, où vous évoquez une liaison amoureuse, vous avez intitulé cette nouvelle de l'archipel du rêve « La cavité miraculeuse ». Est-ce que c'est finalement l'émerveillement de l'adolescent face aux femmes que ce titre nous dit ?
Look, it's nearly 5 o'clock.
Il est déjà 5 heures, dit Chris.
No comment.
Sans commentaire.
Christopher Proust, les personnages et les histoires, ça m'a beaucoup frappé. C'est encore une fois le respect et l'amour qu'il a pour les femmes. Pas toujours ses personnages, mais l'écrivain qu'on devine derrière. Et on sent que, auteur de science-fiction, c'est un auteur qui est extrêmement attaché aux personnages, et en particulier aux personnages féminins. Et à cette question-là, finale, Christopher Priest, vous allez peut-être pouvoir me répondre.
The central character of La Femme sans Histoire is a woman. The most important character in my new novel, The Adjacent, is a woman. I felt the strongest character in The Space Machine was a woman. My books are, I would say, 50-50, interested in men, interested in women. I've always tried not to treat women differently as people, but that women should be just treated as I see them and as I know them. I love women. I like men. I prefer women. I'm sorry, you're asking me sort of really embarrassing questions.
Le personnage central de La Femme sans Histoire est de toute évidence une femme. Le personnage central de The Adjacent est une femme. Je trouve que le personnage central de La Machine à explorer l'espace est une femme. En gros, c'est 50-50. Je trouve les hommes et les femmes intéressants et j'essaie d'accorder la même attention aux deux. En particulier, j'essaie de traiter les femmes dans mes romans, pas différemment de la manière dont je traite les êtres humains de façon générale et dont je pense qu'il faut les traiter. J'essaie de leur donner la même profondeur que je vois chez tout être humain. J'aime les femmes, j'aime bien les hommes. Et vous me posez tout un tas de questions très embarrassantes.
J'ai obligé Christopher Priest à faire son coming out hétérosexuel, tant pis. En tout cas, j'ai eu un vrai bonheur de lectrice et j'ai eu un vrai bonheur de lectrice et de directrice de festival à recevoir un écrivain de la stature de Christopher Priest, qui est en plus adorable. Je vous conseille tout simplement de continuer à le rencontrer. S'il en est d'accord, il reviendra aux Imaginales. Je vous renvoie à notre Île sombre qui vient de sortir, je suis en train de le lire. C'est un roman plus ancien qu'il a réécrit, un de ses premiers, Laura. C'est un roman qui parle d'une île bousculée, déstructurée par l'immigration et la réaction diverse, puisque c'est un monde d'après la guerre climatique et donc les réfugiés. Ça pose un problème extrêmement actuel avec beaucoup d'inquiétude, d'angoisse, d'affection, d'humanité. C'est tout sauf le roman de la haine. C'est un beau livre que je suis en train de lire mais que je n'ai pas terminé. Le Monde Inverti, un des plus grands classiques de la science-fiction. Quand on a atteint l'âge de 1000 km, on peut faire tous les festivals du monde. Une femme sans histoire, mais une belle histoire. La séparation, l'Uchronie. Que s'est-il passé après l'atterrissage du Messerschmitt de Rudolf Hess? Christopher Priest, toujours l'archipel du rêve. Vous n'aimez pas les recueils de nouvelles? Alors, lisons un, celui-là simplement. La Fontaine pétrifiante, un des romans avec Dick qui m'a gagné bonheur de l'imaginaire et de la science-fiction. Et puis, après avoir lu l'archipel du rêve et la Fontaine pétrifiante, le merveilleux roman prix de la British Science Fiction Association, John W. Campbell Memorial Award, plein d'autres prix, le Grand Prix de l'imaginaire. Christopher Priest cumule les prix, c'est pas par hasard. Les Insulaires, c'est l'un des plus grands écrivains de science-fiction vivants. Nous sommes heureux de l'avoir accueilli. Merci Christopher Priest.
Bloody hell.